Vous êtes sur Fréquence Mistral Digne 99.3 et nous accueillons ce matin l'association Jalmalve et notamment Annie Pegolotti, vice-présidente de l'association, Pierre Somringe, trésorier, coordinateur des bénévoles et un nouveau bénévole, Dominique. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour et merci Odile et Stéphanie de nous accueillir et merci chers auditeurs, chers auditrices de prendre quelques instants pour nous écouter. Nous allons rapidement représenter l'association, vous donner la parole à Dominique qui est un nouveau bénévole qui fera part de sa nouvelle expérience, dire quelques mots sur le bilan de l'année, nos projets et surtout, nous le rappellerons, vous inviter à assister à notre assemblée générale qui aura lieu le jeudi 23 janvier 1925 dans la salle Abbé Ferro à 17h. 2025, j'ai dit quoi ?
1925.
Ah oui, non. Je ne vois pas le temps passer. Voilà, donc c'est encore une année très fructueuse pour Jalmalve, avec pas mal d'événements dont vous aurez le récit très précis lors du compte-rendu de nos activités qui sera présenté à notre Assemblée Générale en le 23 janvier 2025. Et entre autres, à noter cette année plusieurs interventions pour présenter ce qui fait l'objet de notre deuxième pied, c'est-à-dire informer les personnes sur la législation en place relative à la fin de vie et surtout la loi Claeys-Leonetti avec essentiellement les directives anticipées. Nous avons fait plusieurs interventions, il en est encore de prévues. Nous avons eu le grand bonheur d'accueillir le docteur Lapiana qui a fait une conférence très appréciée et nous étions allés à son 30e au 30e anniversaire de la maison qu'il a créée à Gardanne et ce fut un moment excellent. Voilà. Pour l'essentiel, je passe la parole à Dominique.
Voilà, donc je suis bénévole accompagnant depuis environ 8 mois auprès de l'association Jalmalve. Donc je pense que les personnes qui écoutent posent un petit peu la question, comment devient-on bénévole accompagnant, quel parcours doit-on suivre et comment en pratique se passent nos interventions. Pour commencer au niveau du parcours qualifiant, peut-être Pierre voudra en parler ou tu préfères...
Oui, ben je peux en dire deux mots. Hein. Donc moi, je suis le coordinateur des bénévoles pour l'association et nous faisons partie d'une fédération qui est la fédération Jalmalve et qui nous suggère, à titre d'association participante, un parcours qualifiant pour les candidats bénévoles qui comporte d'abord une session en visioconférence qui s'appelle « Fenêtre sur Jalmalve » où on présente un peu plus la fédération, les valeurs et le mode de fonctionnement. Et ensuite, il y a un entretien avec une psychothérapeute et un membre de l'association locale. Et pour finir, il y a des sessions de formation qui sont des sessions obligatoires pour les nouveaux bénévoles qui comportent un module sur la mort, un module sur le deuil et deux modules sur l'écoute. Et au terme de ces formations, le candidat bénévole est invité à commencer les accompagnements, d'abord en binôme avec un bénévole expérimenté, et ensuite, il vole de ses propres ailes. La plupart des accompagnements se faisant pour notre association dans les EHPAD, à Digne-les-Bains et aux alentours, mais on peut également avoir des accompagnements à domicile, des accompagnements en institution hospitalière. Alors, je crois qu'on parlera aussi un peu plus tard des accompagnements sur le deuil. Annie, ça, tu pourras en parler un peu, et des initiatives que nous avons lancées en 2024 et que nous continuerons en 2025. Moi, je repasse la parole alors à Dominique pour qu'il nous explique un peu comment il a vécu ces accompagnements.
D'accord. Je rajouterai juste dans le parcours qu'on a qualifiant, à la fin des formations initiales, on rencontre quand même la psychologue de l'association, qui, bien sûr, c'est une discussion ouverte où on exprime un petit peu si on se sent capable de commencer les accompagnements binômes. Donc, dans ces cas-là, s'il y a le feu vert, on peut commencer les accompagnements à deux. Donc, moi, j'interviens au niveau du Cousson. C'est une structure essentiellement de SSR, orientation gériatrique, mais pour lequel il y a plusieurs lits de soins palliatifs, bon, 4 lits à peu près de soins palliatifs. Il y a 2 lits de ce qu'ils appellent état végétatif EVP. Il y a également un secteur fermé sur lequel on n'intervient pas encore. C'est difficile, il faut quand même avoir une formation assez spécialisée pour intervenir auprès des personnes Alzheimer ou ce type de pathologie-là. Donc, en pratique, comment ça se déroule ? Donc, lorsque nous arrivons dans l'établissement, nous dirigeons directement vers le bureau des infirmières. Donc, ce sont les infirmières qui nous orientent un petit peu sur les personnes, qui nous indiquent les lits de soins palliatifs et qui nous orientent sur les personnes qui ont besoin de présence. Donc, c'est un point capital quand même. C'est vraiment cette orientation est nécessaire parce qu'on ne fait pas du porte-à-porte. On ne va pas frapper à chaque porte pour nous présenter et proposer notre présence. Donc, j'ai commencé en binôme avec Claude, que nous saluons. donc, ça m'a permis un petit peu de voir comment l'attitude à adopter avec les personnes, un petit peu comment, parce que c'est pas évident au départ de trouver des discussions d'accroche. Il faut dire qu'au début, lorsqu'on se présente, c'est relativement fréquent que les personnes refusent notre présence, parce que c'est vrai qu'elles sont souvent dans des conditions un petit peu... Elles arrivent dans un établissement, elles peuvent être en souffrance, elles peuvent être... il faut qu'elles connaissent le personnel soignant, etc. Donc ce refus-là n'est pas pris comme un échec, hein, bien au contraire. La fois suivante, on revient se présenter. Donc on ne force pas les portes, on est là, on propose... Et si les gens se sentent la nécessité de notre présence pour discuter ou autre, à ce moment-là, on est présent, bien sûr, on est là à l'écoute, mais également dans l'échange.
Vous avez pu bénéficier des formations dont parlait Pierre.
Voilà, donc j'ai suivi tout le parcours qualifiant. J'ai fait plusieurs visites en binôme avec Claude, et lorsque je me suis senti de pouvoir intervenir seul... Certains collègues préfèrent intervenir à deux. La difficulté, c'est le nombre de personnes. Il y a beaucoup de demandes et nous ne sommes pas beaucoup de bénévoles. Donc, en faisant des interventions individuelles, ça permet de pouvoir accompagner beaucoup plus de personnes. Il y a une forte demande également d'accompagnement de soins palliatifs à domicile. C'est encore un secteur d'activité que je ne connais pas encore, mais bon, peut-être je vais être amené à faire aussi de l'accompagnement à domicile. Là, la démarche est un petit peu différente parce que les personnes à domicile sont demandeuses quand même de notre présence et le font la demande souvent au niveau de l'ETSP, l'équipe de soins palliatifs à domicile, qui nous oriente à ce moment-là. Nous prenons contact avec la personne et nous faisons de l'accompagnement à domicile. Voilà. Quoi dire d'autre ? Ben, pour faire cette activité-là, il faut avoir quand même au fond de soi l'envie profonde d'aider les autres. Donc c'est quand même le critère essentiel, savoir être à l'écoute. Il ne faut pas croire que ce soit une exclusivité de personnes qui étaient dans le médical, même s'il y a beaucoup de personnes, des anciennes infirmières, etc. Moi je ne suis pas du tout du milieu médical et on peut tout à fait faire ce bénévolat si on a vraiment cette envie de le faire.
Est-ce qu'il y a des structures en particulier avec lesquelles vous êtes amené à travailler en plus de l'association ?
Moi, personnellement, je n'interviens qu'au Cousson. Je vais peut-être faire un petit peu d'accompagnement à domicile en soins palliatifs. Il m'est arrivé de refaire des visites avec Claude. C'est un petit peu... Le fonctionnement est relativement souple. Donc, il y a Pierre, le coordinateur, notre couteau de Suisse, on va dire... Qui coordonne un petit peu, qui dispatche un petit peu les bénévoles sur les différentes structures, à domicile. Mais on peut exprimer des désirs. Par exemple, il y a une bénévole qui préfère faire de l'accompagnement à domicile, d'autres en structure. Donc Pierre coordonne un petit peu tout ça pour tenir compte un petit peu des désidératas des uns et des autres. Moi, il m'arrive de refaire des visites avec Claude, par exemple, également de temps en temps. On retourne un petit peu à deux pour avoir des échanges.
Et donc, à part Claude, il y a beaucoup d'autres bénévoles que vous avez pu rencontrer, ou est-ce que vous ne vous croisez pas forcément parce que ce n'est pas les mêmes?
Oui, disons, Jalmaz, c'est un peu une grande famille. Et les bénévoles, on se voit régulièrement aux formations, parce qu'il y a les formations initiales dont on a parlé, mais il y a également de la formation continue.
Je voulais dire, on a des groupes de parole mensuels aussi, hein, où tous les bénévoles en activité se rencontrent avec une psychothérapeute pour exprimer un peu leur ressenti par rapport aux accompagnements qu'ils ont fait durant le mois. Parce qu'il y a parfois des périodes où on traverse, je dirais, des émotions quand même assez intenses, hein, surtout quand on fait de l'accompagnement en soins palliatifs, hein, où il y a parfois des personnes encore assez jeunes qui se retrouvent dans un état de santé problématique et qui traversent plusieurs crises. Et clairement, on absorbe une partie de cette émotion et il faut parvenir à l'exprimer, à la décharger. Je voulais dire aussi, au niveau de l'accompagnement, repréciser que nous sommes une structure absolument laïque et très soucieuse de respecter les valeurs républicaines. Donc, nous ne faisons pas de prosélytisme de quelque nature que ce soit. On est dans l'écoute, c'est-à-dire qu'on est là pour écouter les personnes, reformuler parfois ce qu'elles nous donnent comme information, comme ressenti sur leur parcours. On n'a pas de projet, on n'est pas là pour formuler un projet sur la personne. On n'est pas là non plus pour prodiguer des soins techniques. On n'est pas là pour prodiguer des services du style faire les courses, nettoyer la maison, etc. On est vraiment, nous, à Jalmalf, dans l'écoute. Et je voudrais également préciser un truc qui est important qu'on a réalisé en 2024, c'est que on s'est associé, on a formé un partenariat avec une autre association sœur qui s'appelle l'ASP04, qui est active sur Manosque. Et donc on a commencé à faire des formations ensemble avec cette association, ce qui nous permet d'avoir un public plus large et d'offrir plus de formations. Et également, on a formulé des règles qui nous permettent en fait de nous échanger les demandes d'accompagnement lorsque les demandes que nous recevons visent plus particulièrement le bassin manosquais. Eh bien, on renvoie à l'ASP et vice-versa. Quand on est sur le centre ou le nord du département, eh bien, l'ASP nous renvoie également les demandes d'accompagnement. Donc on arrive en fait ainsi à augmenter notre couverture, en précisant que aussi bien l'ASP que Jalmaf, nous faisons partie d'une association qui s'appelle l'ASFAP, qui est une fédération très importante en France sur les soins palliatifs et qui également a un cahier de charge pour les associations qui en font partie. Donc en fait, en travaillant avec l'ASP, on est tout à fait en ligne avec les valeurs et le mode de fonctionnement de Jalmalf également.
Ben oui, ça me paraît important de préciser qu'il y a un accompagnement des accompagnants. Ils ne sont pas laissés libres. Et là, vous évoquiez donc ce partenariat avec l'ASP. Ça date de cette année, c'est de 2024.
Oui, on avait déjà des relations, suivies avec l'ASP parce que, clairement, quand on est dans le même secteur d'activité, on se retrouve à des conférences, on se retrouve à des formations, voilà. Mais cette année-ci, on a, je dirais, formalisé un peu ce mode de travail et on a donc instauré ce parcours de formation commun avec eux. Comme je l'ai dit, hein, ça permet de se rencontrer, d'échanger entre les bénévoles des deux associations et puis d'augmenter en fait le nombre de formations auxquelles on peut participer vu qu'il y a deux associations formatrices au lieu d'une. Ouais.
Et on peut peut-être en profiter pour préciser les sigles. On l'a pas redit, Jalmalf, ASP, si vous voulez le préciser.
Jusqu'à la mort, accompagner la vie. Et comme je le dis toujours, la lettre la plus importante, c'est le V de vie, parce qu'on est dans la vie. Hein, nous considérons que les personnes sont vivantes jusqu'au bout, méritent notre attention. Nous sommes le regard social que l'on porte sur eux. On leur dit, vous faites toujours partie de la société humaine. Voilà, et c'est pour ça que on développe nos capacités d'écoute, de présence, d'écoute et parfois de présence silencieuse auprès des personnes que nous accompagnons. C'est vrai qu'il y a des entre guillemets, dans les structures où nous sommes affectés, des personnes à laquelle nous finissons par nous attacher. C'est quand elles disparaissent, c'est entre guillemets un deuil qui, bien sûr, n'a rien à voir avec une perte personnelle, mais on peut en témoigner au niveau du groupe de parole, parce que c'est toujours un deuil, une perte. Donc, et je reprécise, c'est vrai, nous sommes vraiment uniquement dans l'écoute. Hein. On a un schéma qui c'est une grande oreille, et dans l'écoute, dans le non-jugement, dans le fait de bien rester à notre place, dans la juste proximité, c'est positif. Hein. Et comme on le dit parfois, comme le disait la UDI lors d'une conférence il y a quelques années, Rosette Poletti, qui est une infirmière pionnière en la matière, toucher mais pas couler.
Oui, il y a une bonne distance, j'imagine, à savoir
tout à
regarder.
Fait.
Ouais.
Tout à fait.
Donc là, on a précisé pour Jeanne Malve, et donc l'ASP, c'est l'association de soutien aux patients.
Non, soins palliatifs. C'est une autre fédération. Au départ, Jeanne Malve était la seule association sur le département. Et notre présidente à l'époque, qui a créé l'association en 1993, donc il y a donc maintenant 31 ans, bientôt 32, habitait Manosque. Donc on était vraiment sur tout le département. Quand l'ASP s'est créé, on a travaillé en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on n'allait pas nous aller sur Manosque. Et plus en plus, notre 2002, en 2003, la présidente est partie, donc on n'allait pas nous descendre sur Manosque ou les Manosquins venir sur Digne. On a travaillé en bonne intelligence, et au fil des ans, le partenariat s'est fait de plus en plus important, comme vous l'a expliqué Pierre.
Et là, on est donc fin 2024. Est-ce que vous voulez revenir sur certains événements qui ont eu lieu cette année ?
Alors, à noter quand même que grâce à Pierre, qui est à la fois notre trésorier et le coordinateur des bénévoles, le nombre de bénévoles a bien augmenté, hein, parce que on était, il y a quelques années, autour d'une dizaine. On arrive à une bonne vingtaine maintenant.
Maintenant, j'ai fait le compte, nous sommes à 24 bénévoles. Hein, mais on n'est pas saturé, hein. Les portes sont ouvertes pour les candidates et les candidats qui se sentiraient appelés à accompagner.
Tu as annoncé que l'objectif 2026, c'était d'avoir au moins 40 bénévoles. J'espère, je vais un peu peut-être témoigner un petit peu plus précisément un accompagnement pour donner une idée un petit peu de ce qu'on fait concrètement. J'espère que ça donnera l'envie d'atteindre cet objectif, parce qu'il y a beaucoup de demandes.
Tout à fait, et je le redis, on a quand même le cadre très précis de la fédération, et ça c'est une force. Hein. Au début, c'était pas Jeanne Malve hein, à la création, c'était l'autre rive. Très rapidement, on s'est rallié à la fédération, ce qui nous donne des opportunités pour des formations extérieures, ce qui nous donne un cadre, des contraintes, mais c'est tout à fait nécessaire parce que à la fois, quand on vient à cette association, c'est souvent qu'on a vécu soi-même des deuils. Donc il faut déjà avoir travaillé là-dessus. C'est aussi que l'on a affaire à une population fragilisée et on a un devoir, comment dire, d'honnêteté, de sérieux auprès des familles et des établissements qui nous font confiance. Donc on n'est ni la famille, ni le médecin, ni le soignant, comme on l'a dit Dominique. On ne prend la place de personne, on est vraiment la présence le plus.
Oui, on peut rappeler qu'il n'y a pas seulement l'accompagnement, puisque vous proposez de temps en temps des conférences ou présentations d'ouvrages.
Alors, tout à fait. Donc cette année, comme je l'ai déjà dit, et Odile a interviewé le docteur Lapiana, qu'on peut retrouver sur vos ondes, qui est un personnage vraiment qui a été très très apprécié, et à la fois par les personnes qui sont venues, et on nous a énoncé énormément de regrets pour ceux qui n'avaient pas pu venir, mais ça a été vraiment une soirée très enrichissante. On l'avait rencontré à notre congrès de Gap, hein, parce qu'on a un congrès national toutes les années. Cette année, ça sera à Vienne, au mois de mai. C'est un moment important aussi de notre association, parce que ça nous permet de rencontrer des personnes. On fait aussi partie d'une entente PACA. Bon, cette année, on n'a pas eu de lien. Là encore, le Covid a fait son œuvre, c'est-à-dire qu'on se voyait deux fois par an régulièrement, puis ça a été par visio, et là, le lien, c'est un peu distendu, mais on espère que ça va revenir. Oui, c'est vrai, nous avons cette action. Donc, il y a le on dit toujours qu'on a deux pieds. Le pied de l'accompagnement, donc avec les bénévoles formés, tout ça selon les règles, et le pied, faire évoluer les mentalités sur la mort. Donc, nous, je veux dire, la fédération travaille à la connaissance de la loi Claes et Onetti. Et comme moi, je le dis souvent, on ne connaît pas suffisamment cette loi et on constate qu'elle n'est pas suffisamment, voire très peu appliquée. Donc, personnellement, je me dis pourquoi refaire des lois quand on n'est pas capable d'appliquer celles qui existent et quand on les connaît bien, on voit qu'elles règlent 99% des cas graves qui peuvent survenir en fin de vie. C'est mon opinion. Malgré tout, nous avons dans ce deuxième pied le souci d'informer les personnes. Et donc cette année, on a fait des séances d'information grand public, on est allé au niveau de la pastorale de la santé. Là, il est prévu qu'on aille encore présenter un PowerPoint qu'a fait Pierre.
Oui, on va la présenter. On l'a présenté à Chemin d'Espoir, on va la présenter aux chrétiens retraités. On la présente parfois au Conseil de la vie sociale des établissements dans lesquels nous sommes tout actifs comme accompagnement. Donc c'est évidemment un public qui est fort intéressé par tout ce qui concerne les directives anticipées notamment, et puis alors plus largement les dispositions en matière de fin de vie, sédation profonde et continue, etc. Donc effectivement, on dissémine un peu ce message. Soit dans des structures, on avait fait une formation également à l'école des infirmières.
Cette année, on n'y est pas encore allé.
On n'y est pas encore allé cette année, mais l'année passée, on avait fait ça, ça avait bien marché. Voilà. Et puis, on a eu, comme Annie l'a dit, cette année, le plaisir d'avoir le congrès national de la fédération à Chorges, près de Gap. Et donc, ça a permis une présentation très large, une délégation très importante de Jeanne Malf. Haute-Provence, vu qu'on était tout près.
Et c'est là qu'on a rencontré le docteur Lapiana. C'est vraiment un moment d'enrichissement et de rencontre très important, quand on peut y aller.
Il vient à l'esprit un accompagnement qui illustre bien ce que disait Annie tout à l'heure en expliquant où était notre place, à côté du corps médical et de la famille. On ne remplace pas, évidemment, ni le corps médical ni la famille. C'était au cours de mon tutorat avec Claude. On nous signale une dame qui pleurait souvent, une dame âgée qui était pas dans un bon état d'esprit. Et lorsque nous sommes arrivés dans la chambre, elle s'est mise à pleurer en disant qu'elle avait perdu ses trois enfants. C'était une personne assez âgée, et que c'était douloureux pour elle, mais qu'elle pouvait pas en parler, que sa famille voulait plus qu'elle en parle. Donc évidemment, c'est par, on a bien compris que c'était par protection, parce que quand elle en parlait, elle était très très triste. Nous lui avons proposé de nous asseoir, Claude lui a pris la main et on lui a dit que, là, on a été dans l'écoute, on lui a dit que c'était logique, que c'était normal, qu'elle ait beaucoup de souffrance et qu'elle pouvait nous en parler, qu'on était là nous pour l'écouter, qu'il n'y avait pas de problème. Et elle pleurait souvent en s'excusant, on lui disait « il faut pas vous excuser, c'est normal, c'est cette tristesse ». Donc voilà, c'est pour dire que le corps médical fait son métier, mais n'a pas toujours le temps de s'asseoir un quart d'heure, 20 minutes auprès des personnes, parce qu'elles ont beaucoup beaucoup de tâches à faire. La famille bloquait un petit peu cette expression de cette souffrance-là par esprit de protection. Et nous avons été là pour qu'elle puisse s'exprimer, la conforter dans le fait que c'était cette souffrance-là... était normal et qu'elle pouvait l'exprimer, quoi. Donc, ce que je voulais rajouter aussi, c'est un petit peu, on demande quelles qualités il faut avoir pour être accompagnant. Bon, si on peut parler de qualité, c'est l'écoute, évidemment. Il faut être dans l'écoute. Mais l'écoute, il faut être présent, vraiment présent. C'est-à-dire qu'on ne va pas auprès d'une personne en réfléchissant aux courses, qu'est-ce qu'il faudra qu'on achète pour le dîner du soir, par exemple. Il faut vraiment être en pleine présence. De la bienveillance, bien sûr, absence de jugement, et c'est un peu dans notre charte de notre association. Moi, je rajouterais qu'il faut être authentique, il faut être soi-même. Moi, par exemple, je suis assez relativement de bonne humeur, j'aime bien développer un petit peu de l'humour, donc il faut pas mettre ça de côté, ça fait partie de ma personne, et je pense que comme on leur amène un petit peu une bouffée d'oxygène dans leur journée un petit peu monotone, il faut amener aussi un petit peu d'enthousiasme et de soleil. Je rajouterai une dernière chose, c'est qui a été dit une fois, je ne sais pas si c'était dans un groupe de parole ou une formation, il faut avoir un peu l'esprit d'inventivité. Par exemple, on peut, dans nos accompagnements, rajouter de la lecture, écouter de la musique. Moi, il m'est arrivé de faire des dessins. J'ai aussi un dispositif qui s'appelle Morphée, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une sorte de, je sais pas comment on appelle ça, de boîte à musique, sur lequel on peut régler différentes sortes de méditations ou de sons. Il y a des sons notamment des oiseaux dans la forêt ou des sons d'un feu ou autre. Et j'ai utilisé ça dernièrement avec un monsieur qui est en soins palliatifs, qui aime bien la nature et il aime bien écouter ses sons d'oiseaux. Donc ça peut aussi amener du bien-être et de la détente.
Tout ça, ce sont des outils que vous avez eu l'idée d'introduire, mais j'imagine qu'au cours de l'encadrement des formations qui sont proposées, il y en a d'autres, des outils qui doivent être proposés. Ce serait peut-être intéressant de préciser comment elles se passent, ces formations. Vous évoquiez, Pierre Sommerin, la partie en visio. Vous pourriez peut-être préciser combien de temps ça dure, combien il y en a, s'il faut se déplacer ou pas, et qu'est-ce qu'il y a un petit peu comme contenu dans ces formations.
Oui, alors il y a en fait les visioconférences. Je dirais qu'il y a plusieurs types de formations. Effectivement, il y a des formations qui se font en visioconférence. Il y a des formations que nous organisons ici à Digne, ou bien, comme je l'ai dit, avec l'ASP à l'hôpital à Manosque. Et il y a des formations plus spécialisées qui sont proposées par d'autres instances, par exemple la Fédération Jalmalf, et ça peut être centralisé à Paris, ou ça peut être décentralisé en province quelque part. Et eux aussi proposent des formations en visioconférence. Alors il y a d'autres instances, hein, comme la SFAP par exemple, ou des associations, sœurs également plus éloignées, hein, qui peuvent offrir des formations auxquelles nous serions intéressés. Alors pour les formations qui se passent ici à Digne ou à Manosque, ce sont des modules qui durent une journée. Donc en général ça commence à 9h. Et on essaye de terminer vers 16h, 16h30. Les formations sont toujours délivrées par une ou un formatrice, formateur qualifié. Ça peut être un psychothérapeute, ça peut être un médecin, ça peut être un gériatre, ça peut être un psychologue, ça peut être un psychiatre. Donc ça dépend un peu des thèmes que l'on aborde. Les modules, je dirais, les formations en général tournent autour toujours des mêmes thèmes, mais en allant un peu plus approfondi dans certains domaines, comme par exemple donc le deuil, et on va en parler dans quelques minutes, hein. Il y a la Fédération Jalmalf offre une formation très spécialisée pour l'accompagnement au deuil et notamment la constitution de ce qu'on pourrait appeler des groupes d'échange ou des groupes de parole de personnes endeuillées. Donc comment est-ce qu'on les constitue, comment est-ce qu'on les anime. Et là, Annie pourra en parler, vu qu'on a organisé deux sessions cette année à Digne suite à la formation. On a 3 bénévoles qualifiés maintenant, je crois. 4 bénévoles qualifiés pour les accompagnements sur le deuil. Hein. Donc ce sont des formations plus spécialisées. On en a une autre en visioconférence organisée par la Fédération cette année sur les directives anticipées. Voilà. Donc on était 3 à participer, on a participé en visioconférence, ça a duré une journée. Donc en fait il y a plusieurs modes de fonctionnement, hein, sur les formations. C'est assez flexible. Il y a soit des déplacements, soit chez soi, ou alors on est sur le bassin dinois ou manosqué. Voilà.
Et c'est gratuit, ces formations ?
Alors non, la fédération nous recommande, et la SFAP également, hein, donc la Société française d'accompagnement en soins palliatifs, également recommande que les bénévoles qui suivent une formation paye une participation aux frais, nous la maintenons assez modeste, à 20 euros par séance. Donc lorsque ce sont des formations que nous organisons, de concert avec l'ASP, sachant que la formation est qualifiante et dure une journée, ben 20 euros, ça ne nous semble pas être rédhibitoire. Alors, par contre, pour des formations qui sont décentralisées, par exemple à Paris, où là, bon, c'est quand même un budget, hein, surtout si ça dure 2 jours ou 3 jours, hein, il y a le logement, il y a le déplacement. On a une commission formation au sein de Jalmalf qui étudie les besoins et les candidatures pour des formations spécialisées. Et si effectivement, financièrement, ça pose un problème, ben, on intervient dans la couverture de ces frais de formation. Voilà.
Eh ben, on peut peut-être demander aussi à Dominique s'il a pu suivre certaines de ces formations. Et je ne sais pas si on a précisé comment vous avez été amené à devenir bénévole à Jalmalve.
Disons, moi, j'avais vu beaucoup d'articles dans les journaux sur Jalmalve. Donc c'est déjà quelque chose depuis plusieurs années, notamment je voyais Annie souvent en photo pour telle ou telle animation. Et donc et puis on entendait parler d'autres types d'associations un petit peu dans des émissions. Donc c'est comme ça que j'ai été attiré par Jalmalve. Et puis un jour j'ai sauté le pas. Je suis allé voir un petit peu sur internet la fédération Jalmalve. Et il y a un monsieur qui disait, si vous hésitez, si vous avez envie, rencontrez Jalmalve, allez voir et vous verrez si c'est quelque chose qui vous convient. Donc j'ai sauté le pas, j'ai décroché mon téléphone, je ne sais plus qui j'ai eu au téléphone. Je suis allé rencontrer un bénévole au jour de permanence, là, les mardis. Donc j'ai discuté une bonne demi-heure avec, et là, bon, il m'a quand même... C'était une personne qui avait fait de l'accompagnement pendant des années et des années, qui avait décidé d'arrêter. Je ne me rappelle plus le nom du monsieur. Et là, ça m'a vraiment donné envie de sauter le pas. Donc après, j'ai contacté le coordinateur qui m'a orienté sur la filière à suivre. Et puis j'ai suivi tout le cursus que Pierre a indiqué tout à l'heure, là, les formations initiales, les tutorats, etc.
Ça vous a pris combien de temps tout ce parcours ? C'est variable peut-être en fonction des bénévoles.
Quand un bénévole, une personne manifeste le besoin d'être bénévole, le parcours, il dure à peu près un an avant d'être effectif. Parce que ça demande de la réflexion, après la formation, il y a des lectures, il y a des rencontres, c'est important. Et comme je disais, on a besoin de sérieux de toutes parts.
Comme je l'ai dit, c'est un engagement. On n'est pas lâché seul, on est vraiment suivi. Bon, il y a ces groupes de parole mensuels où on peut déposer des choses, où on peut entendre les difficultés des collègues, etc. Donc on peut parler des outils qu'on utilise aussi. Donc c'était votre question tout à l'heure. Il y a une certaine souplesse. Il peut aussi, à certains moments, il s'est arrivé à plusieurs bénévoles de sentir le besoin d'arrêter un moment, soit pour des problèmes personnels ou autres. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. On trouve toujours des remplacements ou autres. Donc, c'est un engagement à long terme, mais avec une souplesse. On peut désirer plutôt faire de l'accompagnement à domicile. À ce moment-là, Pierre, il organise les plannings en fonction. Donc, il y a quand même une certaine souplesse, un accompagnement. C'est un engagement, mais bien accompagné, dans la bienveillance.
Et vous évoquez les journées de permanence, est-ce que vous voulez rappeler
Alors, nous avons notre permanence normalement tous les quatrièmes mardis du mois, dans la salle 15, puisque maintenant nous avons obtenu, grâce à l'AVF et notre nouvelle présidente Madeleine Jacquet, la possibilité d'occuper ce local. Donc c'est la salle 15 au centre des Michel, de 14 à 16 le mardi. Exceptionnellement, vu la fermeture pendant les vacances scolaires, cette permanence aura lieu mardi prochain, soit le 17. À noter que l'on peut aussi, grâce à ce local, rencontrer des personnes en dehors de ces horaires, sur demande. Donc, notre site, c'est jalmav04@wanadoo.fr. Le fixe, c'est le 04 92 32 11 01. Mon numéro, le 06 87 85 67 40. Avant de terminer, je voulais parler rapidement de notre action deuil. On pourrait dire que c'est presque notre troisième pied. On va mettre l'accent là-dessus en 2025. Et nous avons eu, comme l'a dit Pierre, nous sommes quatre formés maintenant. Formation de deux sessions avec la fédération. Nous avons organisé deux rencontres informelles autour du deuil à l'Atrium, le 18 septembre et puis une autre en mois de novembre. Bon, on n'a pas eu trop de monde, enfin on a eu un petit peu de monde, on est content et on compte le réitérer. Donc c'est informel, c'est gratuit et c'est pour des personnes qui viennent dire leur peine et partager avec d'autres personnes qui vivent la même épreuve. Et ça nous paraît très important. Le deuil, c'est quand même une blessure très profonde. Moi, je compare souvent ça à une plaie. Si la plaie, on la referme trop vite, ça s'infecte. Il faut que la nature et le temps surtout façonne. Ce qu'on lit sur le deuil, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est que souvent, c'est minimum 2 ans, une première année, une deuxième année, ça peut être plus long. Plus l'attachement est important et plus le lien fort et plus le deuil sera difficile. Le deuil, en latin, c'est dolor. Donc, je veux dire, actuellement, la société, elle ne met pas forcément l'action là-dessus. Et on demande aux personnes d'être fortes, de ne pas dire, on protège moins les endeuillés. Donc nous, c'est pour ça qu'on y tient. On va sûrement envisager un troisième niveau de formation après ces rencontres, qui est l'analyse de justement ce qu'on a mis en place au niveau de la fédération. On a un projet, donc je ne peux en parler qu'en quelques points. C'est qu'on va rencontrer une personne de la médiathèque qui veut organiser quelques jours autour du deuil. Donc on a une réunion vendredi, on vous en dira plus à notre prochaine entrevue et on le développera lors de l'Assemblée Générale au niveau des projets. On ne peut pas en dire plus pour le moment. On en a un second en pointillé aussi, c'est-à-dire avec la compagnie célèbre Plumentiel, de faire une lecture, de leur demander de faire une lecture sur un ouvrage qui nous tient beaucoup à cœur aussi, qui est Oscar et la Dame Rose. Donc elle nous ferait une lecture. Donc c'est dans le tuyau aussi. Et puis bien d'autres choses, bien sûr. Et je voulais rappeler avant de vous rendre l'antenne que grâce à Pierre, nous avons eu l'habilitation de reconnaissance d'intérêt général, c'est-à-dire que tout don et les cotisations donnent lieu à un abattement de 66% des sommes versées. Donc on a besoin bien sûr de donateurs. On en a des fidèles qui sont le Lion, Sinerwil, le Rotary en général, bien sûr qu'on a des subventions essentiellement de la mairie de Digne et une rétribution aussi de l'ASFA par rapport aux formations, à savoir qu'on ne se sert pas de cet argent pour aller passer des vacances au soleil, ça sert uniquement à la formation, donc uniquement à la formation et voilà.
La couverture de quelques frais administratifs. Alors, je voudrais quand même dire que même si les sujets qu'on aborde ici sont sérieux, on nous dit parfois ben comment vous arrivez à faire ça, ça doit être triste, ça doit être pesant. Et, bon, c'est vrai que parfois on traverse des situations qui sont compliquées, mais de façon générale, et on en parlait encore lors de la dernière formation à Manosque, hein, les bénévoles qui sont actifs dans l'accompagnement nous disent parfois, on y rentre parfois, on n'est pas vraiment en forme, on n'a pas tellement envie, mais on y va, bon, parce qu'on s'est engagé, et on ressort et on est mieux. Parce qu'en partageant, en écoutant, en partageant avec d'autres personnes, eh bien, il y a un phénomène qui se passe, qui fait qu'on ressort, je dirais, plus léger qu'on est entré. Donc, en fait, cet accompagnement, il n'est pas aussi lourd que ce qu'on pourrait penser. Hein. Et s'il y a des personnes qui pourraient être intéressées et qui se disent « Bon, mais je n'aurai pas la force pour le faire », moi, je dirais, si vous êtes intéressés, faites quand même un pas. Et puis, on verra. De toute façon, si jamais ça ne marche pas, on peut toujours décrocher. Hein. On ne signe pas avec son sang un contrat à vie. Mais en général, les bénévoles qui commencent, ils continuent. Alors, après, parfois, ils se mettent en pause pour des raisons de santé, l'âge, etc. Mais en général, les bénévoles continuent parce que ça fait du bien d'accompagner autant que d'être accompagné. Hein. Voilà, je voudrais dire ça. Je voudrais encore dire une dernière chose, parce qu'on a tellement de points à couvrir. C'est que, bon, on cherche des bénévoles d'accompagnement toujours, hein. Mais pas seulement, pas que. Ben, pour faire tourner une asso, il faut aussi de l'administratif, il faut aussi de la structure. On a eu le plaisir d'avoir un bénévole cette année qui n'est pas un bénévole d'accompagnement, mais qui est venu se joindre à l'association. On nous dit « moi, je veux bien faire de l'administratif ». Et ça nous aide parce que bon, c'est lui qui collecte notamment les données statistiques des visites dont nous avons besoin pour rendre compte de notre action auprès des instances qui nous subsidient. Donc c'est important, ça prend du temps, il faut être organisé, etc. Bon, après, on a d'autres postes. On a d'autres tâches qui sont plus de nature administrative. Donc, les personnes qui souhaiteraient nous aider autrement que financièrement et qui ne se sentiraient pas de faire de l'accompagnement même, bah, il y a du travail, il y a du boulot. Donc elles peuvent également contacter l'asso au numéro de téléphone que Annie a donné et là on peut voir également ce qui est possible de faire. Voilà.
Et je le rappelle, nous vous attendons nombreux pour notre Assemblée Générale le 23 janvier 2025 à 17h à la salle Abbé Ferraud. Nous vous remercions de votre écoute et encore merci à Tiffany et à Odile de nous avoir reçus.
C'est nous qui merci. Vous remercions, donc Annie Pegoletti, vice-présidente de l'association, Pierre Sommerins, coordinateur des bénévoles, et Dominique pour son témoignage sur son expérience de bénévole. On remercie également Odile à la régie et on vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée sur Fréquence Mistral. Merci.